continuer notre étude dans le livre de Daniel. On va faire une petite récapitulation. Nous avons vu un songe troublant, un grand arbre avec notre frère dans le chapitre 4, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux. C'est le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Daniel était appelé une fois de plus pour interpréter ce songe, ce rêve. Cette fois-ci ici, qui n'a pas été oublié. Quand Daniel, chapitre 4, verset 25, voici ce qui est dit. Le rêve dit, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça, c'était la signification du grand arbre avec les feuillages, etc. C'est ce qu'on avait vu. Daniel l'a interprété. C'est ça l'interprétation. Et toutes ces choses-là, dit le chapitre 4, verset 28, toutes ces choses-là se sont accomplies sur Nebuchadnezzar. Au cas où on aurait des doutes, le texte nous confirme tout ce qui a été dit là, qui semble un peu difficile à digérer. Mais Dieu a accompli ces choses-là, c'est ça, son jugement. Et c'était pour le bien, c'était pour son bien. Et il l'a accompli sur Nebuchadnezzar. Et on peut lire dans le chapitre 4, verset 37, le témoignage de la conversion de Nebuchadnezzar. Avant, on était conscient que son cœur était touché, mais il n'était pas converti. Il n'est pas changé. Mais voilà, c'est la déclaration, après avoir été humilié, il déclare dans le verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? » Ça, c'est le témoignage de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur notre Dieu en pensant à ce récit-là que nous avons lu? L'abaissement, l'écrasement de l'orgueil de Nebuchadnezzar et son élévation et sa conversion. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre Dieu en pensant à tout cela? Patience. Qui se révèle comme tel, n'est-ce pas?
Il nous laisse aller, il nous donne de la corde. Et à un moment donné, la corde, je te ramène. Mais fond dans le fond du baril, il faut aller dans le fond.
Des fois, ça prend ça. Des fois, ça prend ça. Ça nous prend ça.
Malheureusement. C'est comme ça. Je pense qu'on est désespéré. C'est désespéré.
Il y a pas de désespoir pour Dieu. Oui. Et l'orgueil, ça nous envahit tellement facilement. Ça nous montre l'amour, entre autres la patience, mais l'amour et la miséricorde de Dieu, qui au lieu de faire périr, on parlait de patience, au lieu de faire périr le roi, tout ce qu'il avait à faire, c'est il a le pouvoir. Ouais, le faire périr, mais il décide de l'humilier tout simplement pour l'amener à la conversion. Et en plus, il le bénit matériellement, il l'élève encore. Il lui donne tout son royaume, etc., sa puissance. C'est un Dieu merveilleux que nous avons. C'est comme ça qu'il se révèle dans cette histoire-là. Et nous savons qu'il est comme ça. Pour notre conversion, il va utiliser tout ce qui est dans son dessein, on va dire, pour nous humilier. Et pour qu'on revienne à lui. Son désir, c'est que nous soyons ses enfants, soit l'adore, s'humilie. En fait, que tous les hommes soient sauvés, c'est son plan. L'histoire se termine bien pour le roi, profondément méchant. On voit le caractère de Nebuchadnezzar. Tout se termine bien pour lui, dans son cas à lui. Cependant, tout ne finit pas toujours bien pour tous les méchants. On a plein d'histoires dans la Bible qui nous rappellent cela. C'est ça notre étude de ce matin. On va voir avec le roi d'aujourd'hui, l'autre roi, que ça ne va pas se terminer aussi bien qu'avec Nebuchadnezzar. Et je vous invite à lire Daniel chapitre 5 pour voir cette histoire-là. C'est assez long, il y a une trentaine de versets là-dedans. 31 versets. Merci. Merci. C'est quelle est ta version, Sandra? La colombe. La colombe? Ok. C'est un petit peu différent que la mienne, que Louis Segond. Mais le contenu du texte est pareil. Comme dans toutes les autres, récits de ce livre, pour moi, ça prend la foi. Pour croire, il faut la foi. Il faut, comme chrétien, comme on dit, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le fondement, la fondation de tout. Sachant qu'on a un Dieu qui est tout puissant, qui est capable de tout faire, on fait confiance à sa parole, on y croit. Le plan de Dieu, à travers toute la Bible, de toute éternité, c'est que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Et pour être sauvé, il faut qu'on le reconnaisse comme le seul vrai Dieu et l'adorer. S'il est le seul vrai Dieu, on va l'adorer et puis on va suivre ses commandements, on va être obéissant à ce qu'il nous demande. Mais de l'autre côté, les hommes sont perdus parce qu'ils refusent de s'humilier et de s'abaisser. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on rejette le salut offert en Jésus-Christ, on n'a pas d'échappatoire. C'est l'enfer qui nous attend. Et j'espère que chacun de nous ce matin a cette assurance-là qu'il est en Jésus-Christ et qu'il a saisi cette opportunité-là de recevoir Jésus-Christ et passer l'éternité avec lui. C'est l'espérance scellée dans la Bible que nous avons en tant que chrétiens. Dieu fait preuve de beaucoup de patience envers ceux qui ne lui manifestent que de l'indifférence et du mépris. On le voit là. Voilà. Et Dodo l'avait dit tantôt. Mais sa patience n'est pas sans limite. N'est pas sans limite. Il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous rappellent cela. Et cette histoire vient de nous dire, cette lecture que nous avons faite dans ce verset-là, sa patience et son pouvoir, tout ce qu'on a énuméré là vient de s'illustrer dans cinq personnages qu'on peut voir dans ce chapitre-là. Le premier personnage, c'est Belshazzar. On vient dans le verset premier. Qui est Belshazzar, d'après ce qu'on avait lu là? Ok. Je vais entendre toi, et puis lui, après.
C'est le fils de Nebuchadnezzar qui était le roi précédent.
Ok. D'après le verset 2, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce qu'on est d'accord? Mm-hmm. On est d'accord. Bernard.
Nebuchadnezzar avait son fils, mais son fils n'a pas régné longtemps. Il se trouvait être son petit-fils. Il semblerait qu'il est Belshazzar qui a pris la place du trône.
Mais c'était un empereur. Il avait un empire énorme. Énorme.
Mais c'est pas le verset du
livre. Merci, ma chère. Merci. Merci. Et c'est pour cela que j'ai posé cette question-là. Il y a plein de commentaires. Ouais. Plein de commentaires. Et si on se base sur ces commentaires-là, le texte biblique prend le bord. C'est pour ça que je vous encourage à nous concentrer sur le verset 2, qui décrit qui est ce gars-là. Je te comprends, Bernard. On a lu, on a vu tout cela aussi. Mais moi, dans ma tête, la minute que je commence à dire non, c'est pas le fils, c'est le petit-fils, etc., là, on déraille. On déraille. On va se concentrer sur la vérité qui est inspiré là dans le verset 2, il est le fils. On va le voir comment, hein? Le fils, c'est ce que la Bible nous dit.
Parce que, avec l'expérience d'âge, je pense que son père a un enfant avec une famille.
Tout peut arriver. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse se concentrer sur la définition qui se donne dans le verset 2 pour qu'on puisse avancer? Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Belshazzar, il y a une toute petite différence dans l'écriture du nom. Vous l'avez remarqué? Dans l'écriture, l'orthographe du nom. Belshazzar, qui est le roi, et Belshazzar, Daniel, qui est le nom donné à Daniel. Vous avez remarqué, il manquait une seule lettre de différence.
Oui, le T.
Une seule lettre. OK. Tout ça pour dire, moi, je fais confiance au texte biblique qui me le dit, là, OK? Certains commentaires m'ont dit, c'est une erreur, etc. Le texte biblique me dit, Belshazzar, avec un T, oui. C'est Daniel, c'est ça?
C'est ça.
Belt.
Belt.
C'est ça. Je ne connais pas la langue comme il faut, mais on voit l'écriture nous dit qu'il y a une différence entre ces deux-là et nous allons se concentrer sur ce qui est dit ici de M. Belshazzar Santé, qui est le roi actuel dont il est question et qui va être jugé dans le chapitre 5. Ce n'est pas Daniel, le nom est similaire, proche, mais ce n'est pas Daniel, ce n'est pas le nom qui a été donné à Daniel par Nebuchadnezzar. Ceci étant dit, s'il est le fils de, comme le verset 2 le dit, le fils de Nebuchadnezzar, on peut comprendre que très tôt dans sa vie, il a dû assister aux événements qui sont relatés dans les chapitres 1 à 4, n'est-ce pas? Ou bien il en a entendu parler. Ce n'est pas nouveau pour lui. Il était probablement là, et se me basant sur ces deux, j'essaie de voir entre eux. En tout cas, probablement là, quand les quatre jeunes exceptionnels ont défié la volonté de son père, Nebuchadnezzar, pour adorer le Dieu vivant, le Dieu vrai. Il a dû sûrement entendre qu'un certain Daniel a donné l'explication au rêve de son père. Il a sans doute écouté avec stupéfaction le miracle de la fournaise. Il a été peut-être témoin de l'abaissement de l'élévation de son père, son indifférence initiale, puis sa conversion.
Dans le verset, je ne sais pas dans quel verset c'est, pour moi j'ai la colombe aussi, et c'est la reine qui dit à Belshazzar, il y a dans le royaume un homme qui a de l'esprit.
On va y arriver. Ça c'est le deuxième personnage qu'on va voir. Le premier, on essaie d'identifier dans Belshazzar. On y arrive bientôt. Ok. On croit que, le présentant comme cela, il a bénéficié de témoignages, de beaucoup de témoignages. Il a entendu parler de Dieu, il a entendu des témoignages qu'on a rendus de Dieu. Mais malgré tout, c'est un homme qui a osé organiser un festin pour célébrer ces dieux qui sont impuissants, qui sont imaginaires. En fait, c'est des dieux qu'ils se sont faits eux-mêmes. Le texte nous parle du dieu d'or, d'argent, de bois, etc. Quelle folie, on dirait. Ils sont faits de ces hommes enlevés en dignité qui se sont faits des dieux physiques et ils se mettent à l'adorer. Ça ne fait pas de sens. Mais dans sa folie, l'homme, c'est comme ça qu'il réagit. Oui. Qu'est-ce qu'il invite? Les dignitaires. La Bible nous parle de 1000 grands. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais peut-être que vous ne savez pas, mais vous en avez entendu parler dans les fêtes, dans les festins où Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment est-ce que vous avez entendu?
L'orgie.
Ouais. Les boissons. Et puis, you name it. C'est ce qui est là. Et ça ne fait pas de différence ici, là. C'est normal que ce gars-là qui lance un festin, c'est ce qui se passe là-dedans. L'ivresse, la débauche, le plaisir débridé, tout ce qui est de la compagne, la profanation. Et puis, on appelle ça comment? Le fun.
C'est juste que ça, ils ont acté les Mèdes et les Perses qui étaient autour de la grande ville de Babylone. Puis, si tu es à la forteresse de la ville, tu as tes plus grands militaires, tes plus grands dignitaires qui s'en vont faire la fête, qui boivent comme des fous, qui couchent avec plein de femmes, pendant que ton pire ennemi est de l'autre côté de la muraille. C'est pas faire confiance à Dieu, mais c'est aussi stupide d'aller te soulever pendant que.
L'ennemi est à tes portes. L'ennemi est à tes portes.
Oui. Faire confiance à tes murailles, faire confiance à la forteresse que tu as bâtie. Aller te saouler comme des fous. Oh. Les gens les plus importants, là, c'est eux qui vont prendre des décisions militaires, ceux qui vont prendre des décisions économiques, sont complètement sous quand juste sur le côté des murailles, t'as les mêmes et les pères.
Que ça, on ne comprend pas. Mais quand on voit dans le verset qu'il dit qu'ils louent leur Dieu, fait que pour moi, je pense qu'ils vont chercher un réconfort, une force, un soutien auprès de ces dieux-là en faisant ça. C'est peut-être leur façon, parce que le texte nous dit qu'ils sont en train de louer leur Dieu. C'est une adoration de ces dieux-là qu'ils sont en train de faire. Je suis tout à fait d'accord avec Marc. C'est vraiment une folie quand tes pires ennemis sont à tes portes, puis là, c'est ce que tu décides de faire. Mais si c'est dans leur tête, c'est la seule façon qu'on peut demander de l'aide à nos dieux. C'est peut-être la seule chose qu'il faut faire. Et Dieu, notre vrai Dieu, ce n'est pas sa façon de l'adorer, vous savez. Ce n'est pas la façon d'adorer Dieu, ce n'est pas dans les festins. Et c'est peut-être une mise en garde contre les chrétiens dans leurs fêtes. Qu'est-ce qui meuble leurs fêtes quand ils font les fêtes? Il faut faire attention.
J'ai juste peut-être un petit commentaire à ce sujet-là. Donc, le danger, la mort est à la porte, eux autres, ils se distraient. Et ça, il y a une application pour nous autres aujourd'hui, dans le monde qu'on a aujourd'hui, où est-ce que vous savez que la mort est à la porte de tous ceux autour qui ne connaissent pas Christ?
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent au plaisir,
au plaisir.
Ils ne tiennent pas compte du fait qu'ils vont mourir, puis l'autre côté, c'est l'enfer, en fait, tu vas dire ça comme ça, tu sais. Fait qu'on n'est pas différents d'eux autres, là.
Le message, c'est pour nous. C'est, la parole, c'est pour nous. C'est pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous convaincre. Et l'ivresse, la débauche, etc. On arrive vraiment à la profanation. Il va aller un pas plus loin. Vous vous rappelez que c'est quand Nebuchadnezzar a envahi Juda, il a pris tous les ustensiles qui étaient destiné au culte du temple en Israël. Il a tout amené ça avec lui à Babylone. Et son fils, en ce moment-là, la meilleure façon de se divertir, c'est d'aller chercher les coupes qui étaient destinées au culte de l'Éternel pour faire ses... Oui, ma
soeur. Cette partie-là, je
ne
comprends pas. Donc, les coupes étaient avec Nebuchadnezzar et les gardiens.
Parce que quand il a envahi Israël, Juda, okay, il a pris tout ce qui est de valeur. Parce qu'il a finalement, en dernier lieu, c'est le temple qu'il a abattu. Il a commencé avec les gens qui de bien, etc. Daniel et compagnie, il les a mis en Babylone. Mm-hmm. En dernier lieu, c'est le temple. Et tout ce qui était dans le temple, de l'or... Il y avait déjà des choses de valeur dans le temple, mais qui étaient destinées au culte qui se faisait dans le temple à l'Éternel.
Mais est-ce que Nebuchadnezzar, il adorait Dieu avec ça?
Non, il les gardait. Peut-être dans ses coffres forts, je ne sais pas, c'est de la valeur ça. C'est de l'or.
C'est chronique, c'est marqué Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu.
Mais je ne comprenais pas pourquoi il les gardait.
Les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi de ses...
C'est peut-être en fait d'humiliation aussi.
C'est pas une question parce que c'est utilisé comme amener les ustensiles du temple, c'est utilisé comme un trophée. Mm-hmm. Et ils mettaient ça devant leur Dieu, pour dire que leur Dieu soit plus fort que l'autre Dieu. Donc c'est de l'orgueil, mais c'est pour démontrer que leur Dieu soit plus fort. Donc c'est comme dans un trophée.
Et finalement, essayer d'humilier le vrai Dieu, pour dire qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Voici ces objets d'or qui sont destinés à son culte. Je les ai avec moi, je te l'offre. Et que c'était vraiment dans cette pensée-là, je pense que son orgueil l'a poussé jusque-là et il les a gardés. Et son fils, en ce moment-là, il décide de les utiliser, ces mêmes choses, pour les profaner. C'est les profaner.
Bon, c'est bien, bien expliqué. Je voudrais dire qu'on peut mieux comprendre cela quand on voit un peu Élie et puis les
dieux de Baal.
C'était voir la comparaison des dieux, donc ça montre la domination sur Israël.
C'est que les vainqueurs, ils ont montré qu'il a vaincu Israël. Israël avait un Dieu. Tout le monde le savait qu'Israël avait un Dieu. Là. Il y a un Dieu, le Dieu de l'Évre. Ils connaissent l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, là, le passage de la mer Rouge et tout. Là. Ils sont au courant de cela. Mais on sait que Dieu, c'était une punition. On se rappelle, là. Ils n'ont pas vaincu. Là. C'était Dieu a livré, le texte nous l'avait dit, Dieu a livré Judas entre ses mains. C'était dans sa volonté, il l'a prédit de toute façon. Okay, il avait prédit, vous allez passer 70 ans en esclavage en Babylone, et puis 70 ans plus tard, je vais susciter quelqu'un de Sius. C'est à la fin de ce livre-là, c'est ce qu'on voit, à la mort de Belshazzar. C'est le Perse Darius, le Perse qui va prendre le contrôle et qui va plus tard permettre aux enfants d'Israël de retourner, en fait, aux Hébreux, de retourner à Juda, à Jérusalem, pour premièrement, et bâtir le temple, et par la suite, bâtir les murailles de Jérusalem. C'est de la perversion, n'est-ce pas? Et c'est un mépris. Dans le verset 4, on lit très bien le verset 4. Ils burent du vin et louèrent leur Dieu d'or. Leur Dieu d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierres. Des dieux. Ils louèrent leur Dieu. Ils utilisent ces objets sacrés pour... et lancer des honneurs à leur Dieu, leur faux Dieu qui n'existe même pas. Maintenant, nous allons passer à le deuxième. C'est les doigts de la main. Est-ce que vous avez déjà vu ça, même dans des rêves? Des mains qui écrivent sur un mur. On n'a jamais vu ça. Et c'est peut-être le seul texte qui nous parle de cela dans toute peut-être l'histoire. Et c'est ce que Dieu a décidé. En pleine réjouissance, d'insouciance, une main d'homme. Une chose très invraisemblable. Mais regarde la réaction du roi, là. On va lire la réaction du roi. Quand tu vois ça, là, dans une pleine réjouissance, tu vois une main qui se met à écrire, là. Automatiquement, c'est le chaos quand on voit ça. Puis, il n'y a plus de réjouissance. Tout est arrêté, là. Tout est bloqué. Dans quelques secondes, Dieu détourna la situation. Et en un clin d'œil, toute l'arrogance royale doit disparaître. C'est pas compliqué. Le verset nous dit, Dieu changea dans mon texte à moi. Dieu changea la couleur. Le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Je le comprends, mon homme. Je le comprends. En voyant cela, les jointures de ses reins se relâchèrent. Ça, c'est fort. Hein? Oui, paralysé. Ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Là. Il tremblait. Ça, c'est la réaction du roi en voyant cela. Puis je me demande si ça aurait pas été pire pour moi, dans une ambiance comme ça, voir une main comme ça. Invisible, mais visible, qui écrit des choses que je ne comprends pas. Les sages sont là. Tout le monde, les savants, les scientifiques, toutes les gens qui ont la connaissance, supposément, des songes, ils sont là. Ils ne peuvent pas lire l'écriture. Je ne sais pas si c'était en araméen ou bien, je ne sais pas. Mais ils ne pouvaient pas lire cette écriture, ni donner l'explication au roi. Les rois et ses invités, là, ils sont consternés, là, ils sont troublés. Et il n'y a pas d'explication à cela. Tout le monde est paniqué, tout le monde est là, dans la peur. Qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est là que la reine intervient. Là aussi, il y a beaucoup de commentaires par rapport à cette reine-là. Le texte nous parle, il nous dit, je me tiens à ce que le texte nous dit, le festin est gâché. La réjouissance est très courte durée, et de très courte durée. Ici, la reine n'est pas nommée. On sait que c'est juste la reine, le texte nous dit. Mais certains commentaires nous font croire que ce n'est pas la femme du roi qui fait les festins. Appel à tous si vous avez déjà eu des commentaires. Moi, j'ai eu des commentaires. Ça se passe 20 ans plus tard, j'ai oublié de le dire. Ça se passe 20 ans plus tard, après la mort, 20 ans après la mort de Nebuchadnezzar, cette scène-là. Okay. Il est déjà mort. Okay. En tout cas, il y a pas mal de commentaires par rapport à cela. Et il y en a qui disent que c'est la femme de du père du roi. Il y en a qui disent que c'est peut-être l'une des femmes de Nebuchadnezzar qui est encore en vie. Mais le texte nous dit la reine. On voit qu'elle quand même avait une autorité. Premièrement, elle n'était pas au festin. C'est pour ça. Est-ce que c'est la femme du gars qui faisait le festin? On ne sait pas. Fait que, comme je dis là, on spécule là. Beaucoup de commentaires par rapport à cela. C'est juste qu'elle n'est pas nommée. Mais on remarque qu'elle...
C'est pas une grande femme qui peut parler un point comme ça.
Ouais, tout dépend de la culture. Tout dépend de la culture. Tout dépend de la culture. Parce qu'il y a des grands-mamans, là. Parce qu'elle a parlé comme... Elle connaissait ce gars-là. Il connaissait son père très bien. Dans son témoignage, là, tu vas voir qu'elle va expliquer vraiment qui est Nebuchadnezzar. Il va parler. C'est comme si quelqu'un qu'elle connaissait. C'est pour ça que certains commentaires pensent que c'était une ancienne... une des femmes de Nebuchadnezzar, qui était encore en vie. Moi, je répète ce qu'ils disent, mais je m'en tiens à ce que la Bible nous dit, OK? Une, la reine. Et on voit qu'elle a une certaine autorité, n'est-ce pas? Elle est pareille, et elle rappelle ce qui est peut-être a été oublié par le roi dans le verset 11, OK? Mais verset 2 nous dit qui est le père, dans le verset 2. Le verset 2 nous dit Nebuchadnezzar, c'est le père de Belshazzar. Et puis là, la reine parle à Belshazzar, et dit ton père. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle a du vécu.
Je vais juste questionner, c'était quoi la relation père-fils entre le roi qui est décédé et son fils? Parce que, tu sais, je pense que dans toute Mon parent me parle beaucoup de l'ancien camp, la misère, comment tu vas surmonter ça. Ça, c'est des discours qui restent. Là, tu as un roi là, qui fait n'importe quoi. Et son père qui a eu la misère, tu sais, il a été mangé de l'herbe. Je trouve ça de folie, mais à la fin de vie, il a reconnu qu'il était Dieu. C'est pas un point qu'un enfant pourrait comme oublier dans ma tête, en tout cas.
Mais c'est un roi quand même. On ne sait pas. Est-ce qu'il a le temps pour ça? Je ne sais pas. Tu en parles, tu devrais en parler. Peut-être l'histoire devrait ramener ça, mais est-ce que l'histoire, elles sont intéressées aux choses spirituelles, aux choses du vrai Dieu? Je ne sais pas. Leur histoire.
C'est comme je dis maintenant, parce que quand on écoute comment la femme parle, elle a dit « un homme sage des dieux ». Alors, même les autres ne peuvent pas reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. Mm-hmm. C'est comme ça, il fait partie des magiciens. Lui, c'est juste le plus sage des magiciens. Ils l'ont mis à la tête. Quand ils l'ont mis à la tête des magiciens, c'est pour dire comme si, mais c'est pas une catégorie à part. Comme si c'est juste quelqu'un parmi tant d'autres, mais lui, il peut t'aider sûrement.
Elle a une connaissance profonde de Daniel. Elle explique, elle va dire exactement ce que Daniel a fait dans le passé. Il va même parler de son père. Et je fais juste une petite parenthèse. D'après ce que j'ai lu, et puis ça, je l'ai puisé du commentaire du livre de la Bible de MacArthur. Et puis, il dit, c'est là que j'ai trouvé la reine est peut-être l'une des femmes encore vivantes de Nebuchadnezzar. Dans ce cas, elle devrait être une épouse de Nabonide. Nabonide, d'après ce que je rapporte, c'est le père de ce gars-là, qui est fils de Nebuchadnezzar, qui est mort. Fait que, avec l'empire, qui est tellement grand, son fils, je parle historiquement là, le texte nous dit un peu différemment, okay? D'après ce qu'il dit, c'est que l'empire est tellement grand que Nabonide, il est exilé, il est en Arabie, si vous dites, en Arabie. Puis là, lui, il est en Babylone. Il gouverne à Babylone. C'est pour ça qu'on parle, il dit, c'est pour ça qu'il promet à Daniel d'être le troisième dans son gouvernement. Parce qu'il ne peut pas être le premier, parce que lui, il est comme le co-régent. Il fonctionne dans, il domine sur Babylone, mais le grand roi, là, le roi qui est fils de Nebuchadnezzar, est en Arabie. Et lui, il est comme le petit-fils. Ça, c'est pour les commentaires qu'on dit, OK? Mais on va revenir au texte. Le texte ne nous parle pas de petit-fils. Et si on parle de cette femme-là, c'est peut-être, cette femme-là, il dit, c'est peut-être la reine, c'est peut-être la femme de Nabonide. Nabonide, ce Nabonide-là. Et qui est entrée dans le décor et qui prouve par son autorité sa connaissance. Elle rend témoignage de la sagesse de Daniel au temps de son père. Fait qu'elle semble avoir été bien exposée à Daniel et puis à tous les événements dans le royaume de Nebuchadnezzar. Elle recommande, elle a de l'autorité, là. Si vous voyez dans le texte, là, elle demande que Daniel soit arrivé. Fait que devant, j'essaie de comprendre comment elle peut avoir autant d'autorité et pour vous demander tout ce qu'elle dit dans les textes. Si elle n'est pas la reine, on comprend qu'elle n'est pas la reine parce qu'elle n'est pas dans le festin, mais c'est une reine à quelque part qui est peut-être, je sais pas, c'est une reine. La reine de, je sais pas, le texte ne nous dit pas, mais la reine, il y a une reine qui est intervenue et elle va recommander qu'on va chercher Daniel. Le serviteur de Dieu, dans ce cas-ci, c'est une main avec des droits. Dieu peut utiliser qui il veut, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, Balaam, Dieu a utilisé qui pour... L'âne. Hein? Ok? Puis dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va dire, s'il ne parle pas, qu'est-ce qu'il va parler? Pierre va parler. C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu-là qui est notre sauveur. C'est lui qu'on va rencontrer bientôt. Fait que, il y a des événements ici qu'on ne comprend pas, mais on fait confiance au texte biblique que Dieu a le pouvoir et il fait ce qu'il veut. Et par la suite, on va finir avec l'histoire va nous dire que
c'est un point important, Isaac. J'ai lu ce qu'on voit sur la Bible. J'ai lu le rapport telle chose ou ça. Dieu n'a pas besoin de nos institutions.
C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Puis malgré le gouvernement qui veut nous mettre à terre en ce moment, le PQ, la CAQ, avec leurs lois, avec toutes leurs recommandations, il y a des recommandations qui vont faire excessivement mal à l'Église. Excessivement mal. Mais Dieu, il n'a pas besoin de nous pour faire son plan, mais il nous utilise dans sa grâce. Puis il va bâtir son Église. Malgré que si on perd nos institutions, on perd nos bâtiments, Dieu va continuer à bâtir son Église parce que Nicole Pelchat et Guillaume Rousseau ne sont pas plus puissants que Dieu.
Amen.
Ni la CAQ, ni le PQ. Puis c'est là où il faut faire confiance à Dieu. Tu sais, ça fait un feu de forêt sur les réseaux sociaux, cette affaire-là, plein de commentaires là-dessus. Mais il faut vraiment croire que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il l'utilise parce qu'il y a de la grâce. On peut avancer un petit peu son royaume. Parce qu'il est bon, mais il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos bâtiments, il n'a pas besoin de nos camps, il n'a pas besoin de Sandbag.
Amen.
On l'utilise pareil.
Amen.
Puis l'Église de Dieu va survivre. Nicole Pelchat et Guillaume Rousseau, la CAQ, le PQ. Il faut faire confiance à Dieu dans ces affaires-là. Ça fait fureur sur les réseaux sociaux ces jours-ci, mais Dieu va continuer à bâtir son Église, même si on perd tous nos sentiments. Il faut faire confiance à Dieu dans sa souveraineté, que si Dieu veut que l'Église continue au Québec, elle va continuer.
Amen.
L'Église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas nos infrastructures, c'est les gens.
Les chrétiens. C'est nous. Parce que je suis tout à fait d'accord, mon frère, et quand on regarde autour de nous, les nouvelles et tout, là, ça peut nous faire peur. Mais c'est pour cela qu'il faut croire en Dieu, aller nous ressourcer en Dieu, nous réfugier en Dieu, parce que c'est notre espérance, c'est notre force. Il est tout puissant. Et son œuvre va s'accomplir. Ses desseins vont s'accomplir.
Il faut être prêt à faire face à la persécution. Ouais. Jésus n'a pas caché les choses. Il dit la persécution s'en vient. Tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la politique au Québec, la persécution s'en vient.
Ouais.
On est à 5-6 ans de grosse persécution. Puis il faut juste, tu sais, ça s'en vient, puis il ne faut pas espérer que ça ne s'en vient pas, ça s'en vient.
Ça s'en vient.
Faire confiance à Dieu que Dieu va bâtir son Église. Puis si on prend des décisions par principe, puis on perd nos actifs, on perd nos bâtiments, on perd notre liberté, tu sais, je pense qu'on est proche d'aller en prison au Québec. Il faut juste faire confiance à Dieu que Dieu va bâtir son Église au Québec.
Merci pour cette intervention, mon frère, parce que, comme je dis, toute cette semaine en faisant cette étude-là. En fait, l'étude de Daniel, tout simplement, tout ce qui se passe dans le livre de Daniel, c'est comme là, je me refuge dans ces histoires-là pour ne pas paniquer. Comprends-tu?
Le chapitre 6,
l'interdiction
de la prière.
Oui.
Ouais. C'est là-dedans que le Québec veut passer.
Oui, Philippe.
Je pense que tout le monde le sait, là, mais le projet de loi veut imposer des taxes municipaux à nos bâtiments, vous savez ça.
Oui.
Ils veulent enlever nos déductions d'impôts pour les donations, pour les dons.
Oui.
C'est le projet de loi. Puis pour des tierces parties, comme si on ne met pas par écrit qu'on supporte l'avortement, aussi comme le cas de Gros.
On a déjà fait face. On a passé ça à travers le camp.
Fait que ça, ces choses-là, tu sais, sur un bâtiment comme ici, là, qui vaut 2,85 selon les taxes municipales. Si on regarde chez nous, là, juste chez nous, là, à 2,85 millions de valeur municipale, ça fait 114 000 de taxes de plus par année. Si on ajoute le nouveau bâtiment à 6,4 millions,
là,
ça c'est 240 000 de taxes par année. Fait que quand Marc dit ça, là, c'est important de mettre la perspective de Dieu. OK, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, puis on ne peut pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On peut écrire à nos députés, puis tout ça. On peut faire des pétitions, comme plusieurs églises ont fait. Mais ultimement, il faut être prêt à faire face à la musique. Et puis, pour ma part, moi, si ça arrive, je vais continuer à donner.
Amen.
Continuer à supporter. Je suis prêt à payer le prix.
Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à payer le prix. Comment faire?
Ça ne sera même pas la première fois, tu sais, qu'on vit une interdiction de prier, qu'on vit, tu sais, c'est un cycle qui revient, qui roule, qui continue. Et, il y a plus de 2000 ans, on parle de 2500 ans, après, c'est arrivé.
Je pense qu'avoir entendu le témoignage de ton père, Philippe, c'est déjà des choses qu'ils ont vécues déjà, que Dieu a tourné, Puis, si on parle d'injustice et tout ça, nous avons fait le cours ensemble sur les petits prophètes. On se rappelle comment le roi d'Israël, là, il n'était pas meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Là. Et c'était leurs propres frères et sœurs, là. Comment Dieu leur reprochait leur injustice, tout ce qu'ils faisaient au peuple. Et ça, c'est juste, comme nos frères disent, c'est cyclique, ça va revenir. Ça va revenir. Et puis, en tant que chrétien, il faut être prêt. Sachant que notre Dieu, il peut se servir de n'importe qui. Il n'a pas besoin de nous, comme notre frère a dit, il n'a pas besoin de nous. Et il peut se servir. Il est tout puissant. Il est tout puissant dans ce texte-là. Il utilise la main, une doigt pour communiquer un message à un roi méchant qui est en train de le profaner. Et on avait cité le texte. Et s'il se taise, Jésus-Christ dit, s'il se taise, les pierres crieront. Ça, c'est la parole de notre Dieu. N'ayons pas. Bon, maintenant, on a une autre personne qu'on voit dans le décor, c'est Daniel. Après la reine a demandé qu'on puisse faire venir Daniel. Donc, on voit son autorité vraiment. On va peut-être passer lire le texte. La question que Belshazzar pose prouve qu'il a retenu l'information donnée par la reine. Parce que la reine lui a dit que, au temps de ton père, il y avait un gars qui s'appelait Daniel, il était rempli de sagesse, etc. Il avait la capacité d'interpréter les songes. Puis, il a retenu ça. Il a retenu ça. Puis, quand on fait venir Daniel, peut-être qu'on devrait lire les versets 13 à 16, s'il vous plaît. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Alors, c'est la réponse, c'est le questionnement du roi face à Daniel. Puis, comme on l'avait vu dans les versets précédents, la reine lui avait tout expliqué cela, que ce que son père a fait, etc. Et puis, il répète la même information qu'il a apprise de la reine. Il questionne David, il questionne Daniel par rapport à cela. Mais en lisant ce texte-là, c'est comme si on dit que mais Daniel, auparavant, il était dans la cour du roi. On se souvient, non, avec Nebuchadnezzar, il avait sa place dans la cour du roi. Et peut-être quelques années, 20 ou peut-être 30 ans plus tard, il est peut-être vieilli, mais il est sorti de la cour. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Malgré la réputation qu'il avait, comme l'homme le plus sage, parmi les astrologues, mais il était, on veut comprendre qu'il n'était plus là parce qu'on l'avait fait venir. Et que le roi lui-même, dans son royaume, dans sa cour, il ne savait pas que Daniel existait. Il a fallu que quelqu'un d'autre intervienne pour dire que, hey, il y a un homme qui s'appelle Daniel qui a ces capacités-là. Fait que, on comprend qu'avec, connaissant Daniel, il ne pouvait pas avoir plus sa place. Dans la cour royale, c'est sûr.
Oui. Daniel avait son nom sur 80 ans quand cette histoire-là est arrivée. Je crois sincèrement, puis je le vois avec mes grands-parents plus vieux, que Dieu utilise des personnes de cet âge-là pour sa gloire. Elles sont très efficaces. Juste parce que tu es de cet âge-là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place dans l'Église, que tu n'as pas un impact important sur les gens dans l'Église. C'était l'âge de Daniel. On a vu mon grand-père hier, puis chez nous, à quelques minutes. Puis, qu'est-ce que mes enfants ont dit en sortant? Il aime vraiment Dieu, cet homme-là. Mm-hmm. 99 ans. Wow. Fait que juste parce que tu es au-dessus de 80 ans comme Daniel, ça ne veut pas dire que tu as une place importante. Puis ta voix est importante aussi. Mm-hmm. Parce que
tu as
du vécu.
Oui, du vécu.
Ta relation avec le Seigneur a été testée à travers des grosses épreuves que tu n'as pas eues quand tu es plus jeune.
Et c'est peut-être ces choses-là qui transpirent, que la reine voit aussi qu'elle témoigne, parce qu'elle le dit vraiment, là, que. Tout ce que Daniel est capable de faire, qu'il a en lui l'esprit des dieux. Et on va l'utiliser, on va faire usage de Daniel avec les capacités que Dieu lui donne pour expliquer le songe ou bien l'écriture. Il est finalement arrivé, Daniel est venu, on l'a conduit, le texte nous dit, on l'introduit, et il a, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on le roi le fait, lui offre des récompenses. Je ne sais pas, c'est pour acheter les... Non. Mais avec Balaam, je pense qu'il a voulu qu'il dise autrement, hein, ça. Ce que Dieu a voulu révéler, qu'il dise pas la vérité. Hein, ça. Il y a bien des prophètes qui ont vécu ça. Alors, finalement, il est arrivé. Et connaissant Daniel, est-ce qu'il a accepté? Non. Pas besoin de cela. Même à 84 années, il n'a pas besoin des récompenses. Il dit, garde tes dons. Garde tes dons et accorde-les à d'autres. Il dit, mais moi, je lirai néanmoins. Il y a une confiance, n'est-ce pas? Il n'hésite pas. Il a la confiance que ce Dieu-là, on parle de vécu qu'il a eu avec son Dieu, il a cette confiance-là qu'il est capable de lire l'Écriture et de lui en donner l'explication. Et c'est ce qu'il confirme au roi. Oui, je vais le faire, je t'en donnerai l'explication. Et qu'est-ce qui arrive? Au même moment, pendant que... la jouissance, ok? En fait, avant même de donner l'explication, Daniel, il revient en arrière. Il va parler de son père. Il va présenter, lui rappeler qui était son père. un homme de pouvoir énorme qui avait le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et qu'est-ce que Dieu avait fait de lui? Oui, mon frère.
Oui, une question qui était soulevée, c'est quand on lit justement au verset 16, « Si donc tu es capable de lire cette inscription, on va te donner une chaîne, puis tu vas donner... » Mais quand on lit dans 2:48, « Le roi éleva Daniel à une autre position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone, l'institua chef suprême de tous les sages babyloniens. » Il est arrivé quoi depuis ce temps-là?
N'oubliez pas, c'est 20 ans plus tard, cette histoire d'aujourd'hui. Le papa est mort. Le papa est mort, fait qu'il n'y a peut-être plus. Ouais, c'est pas compliqué, ça. Ça n'a pas changé, hein? Ça n'a pas changé. C'est 20 ans plus tard, et puis le papa est mort. On oublie ce gars-là, ce qu'il a fait, et puis il est dans un coin sûrement, à quelque part. Et il a fallu, comme je dis, il va falloir la reine pour rappeler qu'il existe, qu'il faut aller le chercher. Fait que, il est sûrement tombé dans l'oubliette, là. Et puis, et heureusement que Dieu l'a pas abandonné, Dieu va l'utiliser encore pour accomplir sa mission. Oui.
C'est un point important qu'il apporte là-dessus, parce que c'est vrai que quand le nouveau gouvernement arrive, il y a toujours des gens qui vont plier à ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas choisir quelqu'un qui va aller à l'encontre de leurs valeurs et qu'on leur donner du fil à retordre.
Certainement pas un homme comme Daniel et ses compagnons. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En plus, leur foi dans le vrai Dieu, qui est à l'encontre de leur foi, eux, parce qu'eux, ils adorent les faux dieux. Puis Daniel, il fait pas ça. Il compte ça, il va prêcher contre ça. Fait que ça étonne pas qu'il soit plus là dans la cour. Mais lui, il a cette opportunité, il va taper sur le clou. Il va lui rappeler là, qu'est-ce que son père a fait. Lisons les versets 18 à 21 pour nous le rappeler. La reine a fait une description partielle du père, hein, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar. Mais Daniel, il va faire la vraie description. Il parle, il rentre vraiment direct, il lui dit qui était son père. C'est un homme méchant, c'est un homme qui est orgueilleux. Mais tout ça, le roi puissant, toute la puissance qu'il avait, c'est le Dieu très haut qui lui a donné cette puissance-là. Et malgré ça, lui, il s'est élevé, il s'est, dans son orgueil, et puis il ne cache pas ses mots, Daniel. Il s'adresse avec des termes crus face au roi pour lui rappeler l'arrogance de son père. Il a été jeté au rang des animaux, où il va goûter de l'herbe avec les animaux. Et jusqu'à ce qu'il reconnaisse, il a dû être humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu, c'est le vrai Dieu. Lui, dans le verset 23, il dit, « Et toi, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces tes choses. » Ça, c'est important, hein? Vas-y, mon frère, écoute.
Non, effectivement, ce verset m'interpellait parce que tantôt, on disait effectivement qu'il n'avait peut-être pas l'information. Mais si Daniel nous dit que le roi avait ces informations, il était informé de toute l'histoire.
Et
quand on va plus loin, au verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette
expression de main. Voilà. Donc, ça enlève tout doute. Ça enlève tout doute. Il était conscient, il savait. Et Daniel lui dit ça, dans la face, tu savais.
C'est parce que le mot que Célestin, et ça fait rappeler beaucoup qu'est-ce que Paul écrit dans Romains 1, mais comment que nous qui étions méchants, notre propre rébellion nous fait oublier et nous fait révolter contre la présence de Dieu, contre Jésus-Christ qui a envoyé. Qui est venu nous donner la réconciliation, qui est révolte. Et arriver devant Dieu, on ne peut pas nier ça. Aucun humain qui va pouvoir nier ça. Donc c'est comme. J'aime beaucoup le verset 22 et 23, parce que le verset 23 dit tu étais contre. Tu t'es élevé contre le Seigneur dessus. Donc c'est vraiment comme
un adversaire. Et c'est volontaire. C'est volontaire, il a décidé lui-même d'aller à l'encontre de tout ça. Même s'il y avait des doutes dans les premiers versets, si tu avais des doutes, est-ce qu'il était là, le petit-fils, etc., il ne savait pas, etc. Mais Daniel le confronte, il dit, là, tu le savais, mon homme, tu savais toutes ces choses-là. Tu as décidé toi-même d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Wow, ça prend un homme avec conviction, n'est-ce pas?
Et puis encore, si on va plus loin, on se rend compte que Daniel était vivant. Daniel était vivant, donc ce roi-là...
Bien vivant.
Oui, il ne faut pas subir l'évangile. Puis on le dit dans le chapitre 4, verset 27, tout ce que Daniel nomme le péché,
Oui.
Il fait dans la repentance. Il fait encore dans le chapitre 5, il dit que si tu ne fais pas ça, c'est ça qui va arriver. Puis il faut être spécifique dans le péché, surtout dans un monde relatif où ce que le bien et le mal, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi qui est le bien et le mal? La Bible définit dans le genre que c'est de violer la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Pas du relativisme, ce que ton bien, c'est ton bien, ta vérité, c'est ta vérité. Your truth is your truth. Tu sais, c'est ça qu'on entend. Non, la vérité est la vérité. Le bien existe, le mal existe, puis on commet le mal. Et il faut être spécifique, surtout dans un monde dans lequel on vit, où ce que le relativisme des années 80-90 a fait naissance à l'intersectionnalité des années 2020. Puis le bien puis le mal, c'est plus la façon que les choses sont vues. C'est vu le pour et le contre. Ta vérité, c'est ta vérité. On vit dans ce monde-là aujourd'hui tout le temps. Puis, mais le bien puis le mal existent. C'est comme ça qu'on va voir le monde. Qu'il y a du bien puis du mal. Daniel, il n'a pas peur de le dire à un roi. Il nomme le péché. Il n'est pas humble. Ça prend du courage.
Ça prend du courage. Du courage, de l'autorité. Sa confiance en Dieu. C'est un super bon témoignage de jeune qui était jeune et puis qui a vieilli, qui a une connaissance, qui a vécu avec le Seigneur, qui se tient sur ses promesses. On le voit là. Puis il va vraiment confronter le roi avec son péché. C'est toi, tu as décidé toi-même de tu t'es pas humilié, quoi que tu suces des choses. Je trouve que c'est quand même fort.
Puis le confronter après avoir été appelé, c'est pas lui qui a décidé d'aller le voir, c'est de le ramasser. Il a attendu d'être appelé avant d'y aller.
Oui, ouais. Et puis il ne ménage pas ses mots. Il va dire la vérité malgré les. Est-ce qu'il aurait peur de recevoir les présents? Ouais, ça n'intéresse pas de toute façon. Il dit tu peux les garder ou donner à quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de cela. Puis il va vraiment lui annoncer le message de la repentance. Et s'il ne se repent pas, il dit, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est à cause de cela. C'est pourquoi dans le verset 24, il dit, dans le verset 23, il dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases, là il va aller direct à la profanation, là, il dit, les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes fait servir pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui dans sa main ton souffle, qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Waouh! Il va continuer. C'est pourquoi, à cause de tout cela que tu as fait, là, Dieu t'a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Et... ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu cette écriture-là, il n'avait pas entendu ça. Et là, il a mis toute l'iniquité du roi devant sa face. Et là, il ne peut même pas nier ça. Il lui dit que c'est à cause de ses péchés contre le vrai Dieu que cette main a écrit. Comptez, pesez et divisez. Hey, imaginez la foule qui est là avec tous ces dignitaires qu'il voit sur le mur là. Ce qui est écrit par la main, et puis là, il dit, voilà ce qui est écrit. Comptez, pesez et divisez. Le message codé, ça. Et Daniel, il dit, ben, voilà ce que ça veut dire, mon ami. Il dit, c'est que Dieu, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Dieu a vu, il t'a analysé, il t'a pesé toutes tes œuvres. Ben, ça ne répond pas. Tu as floppé. Qu'est-ce qui va arriver comme punition? Ton royaume sera divisé. Ton royaume sera divisé. Et... ce n'est pas une menace, c'est une réalité qui va s'accomplir là. Et selon certains commentaires, pendant qu'ils disent ça, s'il y a des troupes là, qui sont en train de canaliser l'eau, là, qui, etc., là, pour de l'Euphrate là, pour ouvrir un canal pour que tranquillement il rentre et le saisisse là. Pendant cela. Et le royaume sera divisé par les Mèdes, entre les Mèdes et les Perses. Il va tomber.
Ça montre l'orgueil de Belshazzar aussi, parce que si les Mèdes et les Perses sont arrivés cette journée, ben les Mèdes sont arrivés.
Il était déjà là, il était pas loin.
Il réunit toutes ses grands, on a des fans, puis on sait qu'il devait savoir qu'il y avait des gens qui étaient.
Ben c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y avait juste 1000, c'est les 1000 grands qu'il dit là.
Mais les grands, ils auraient dû être à
oui,
travail.
Oui, oui, oui. Intouchable, invincible.
Intouchable du point de vue de Dieu et intouchable du point de vue de, humainement parlant aussi.
Mais beaucoup des rois de la terre, les puissants de la terre, pensez-vous qu'ils ne sont pas comme ça? C'est exactement comme ça. C'est le cas de l'homme qui est révélé là. Et sinon, on ne fait pas attention. C'est ça.
Oui. Il y a des choses, des fois, hein, qui peuvent prendre place, même nous, chrétiens, qui peuvent des péchés, on peut accepter à un moment donné, qui peuvent prendre place, puis à un moment donné, nous, on pense que parce qu'on a la grâce, puis que...
Dieu est bon, Dieu est bon, oui, on va persister là-dedans, oui, oui.
Ben oui. Comme saisi, là, de voir à quel point que on a laissé des choses entrer, puis qu'à chaque fois, on se disait, ben non, c'est pas si grand que ça.
Oui. Je me rappelle qu'il y a un monsieur qui a été tout le temps exposé à l'Évangile. Mais ce qu'il a retenu de l'Évangile, c'est que c'est la sécurité éternelle. Mais il vit dans la débauche, là, dans la débauche. Ah non, c'est pas grave, mais je suis sauvé. Est-ce que je peux perdre mon salut? Il connaît ça. C'est ce qu'il va dire. Est-ce que je peux perdre mon salut? Je suis enfant de Dieu. Ah oui. On ne pouvait pas l'atteindre parce que lui, c'est ça. Je peux vivre comme je veux, parce que ben c'est garanti. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et malheureusement. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est. Si on pense comme ça, on est dans l'erreur. Et le texte nous dit là, c'était le jugement de Dieu direct. Dieu écrivait ce jugement-là avec sa main. Et Daniel lui a tout dit. Finalement, c'est Darius qui rentre dans le portrait la nuit même où Daniel parle à Belshazzar, là, les armées ennemies déferlent sur Babylone et la ville est tombée. La ville est tombée. C'est fini. C'en est fait pour lui. Le roi arrogant n'est plus qu'un cadavre. Il n'est plus là. Dieu l'a dit. Il a exécuté ses plans. C'est le Créateur qui l'a méprisé et dont il s'est moqué la nuit précédente même. Aussi vite que ça, hein? Et Dieu a montré une fois de plus qu'il est le véritable maître du monde. Et Darius, selon le plan de Dieu, on sait, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et Darius arrive au trône à 62 ans. Et nous allons continuer le reste la semaine prochaine avec notre frère. Oui.
C'est une chose, si c'est beau de voir la repentance d'un roi au chapitre. Qui s'humilie.
Oui.
Parce que le mot, dans le chapitre 4, je ne sais pas si vous avez parlé de la semaine passée, qui est reconnu, quand il a reconnu que l'Éternel est Dieu.
Oui.
Mais c'est un mot qui parle d'intimité profonde. C'est le même mot qui parle de repentance, d'aller vers Dieu. Pas seulement savoir que Dieu est Dieu, mais c'est savoir quelque chose que je suis moi
par rapport à ce Dieu-là.
C'est une connaissance alliancielle. Donc c'est pas juste superficiel, c'est pas comme juste venir à l'église, c'est vraiment qui soit, que moi je suis son serviteur, son esclave, et lui, c'est lui
qui
me sert. Donc c'est ce terme-là que Dieu utilise dans Daniel 4, et que dans Daniel 5, on voit la rébellion de Belshazzar contre l'Éternel, quand ce même Dieu là, il n'a pas appris de la repentance de son père. Donc c'est beau de voir ça. Ça 4, le méchant peut se repentir.
La patience. La patience.
Et on voit dans ça 5, la rébellion du cœur humain qui commence à prendre sa conséquence et qui n'est pas intime.
On voit la souveraineté de Dieu aussi. Dans chapitre 4, il lui a donné une chance. Dans chapitre 5, non. pas de chance pour toi. On termine avec ça. Quand tout le long de sa vie, le cœur a constitué une poche de résistance à Dieu et qu'on a marché dans son entêtement impie, un moment va arriver où la patience de Dieu sera parvenue à son terme. À force d'étouffer la voix de sa conscience, on atteindra un point où Dieu n'a plus rien à dire. Il ne peut plus nous parler. Soyons à l'écoute dans l'humilité. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen.